Chapitre 6 Aventure épouvantable. On était près de conclure le mariage de la belle Primrose avec le beau Jenny. Notre ami Fry n'avait jamais goûté une joie plus pure. Je la partageais. Voici comment elle fut changée en un désastre que je puis à peine comprendre. La Clyhart aimait Jenny en lui faisant continuellement des infidélités. C'est le sort, dit-on, de toutes les femmes qui, en méprisant trop la pudeur, ont renoncé à la probité. Elle trahissait surtout son cher Jenny pour son cher Byrton et pour un autre débauché de la même trempe. Ils vivaient ensemble dans la crapule. Et ce qui se voit peut-être que dans notre nation, c'est qu'ils avaient tous de l'esprit et de la valeur. Malheureusement, ils n'avaient jamais plus d'esprit que contre Dieu. La maison de Madame Clavelhart était le rendez-vous des athées. Encore, s'ils avaient été des athées, gens de bien, comme Épicure et Léontium, comme Lucrèce et Memmius, comme Spinoza, qu'on dit avoir été un des plus honnêtes hommes de la Hollande, comme Hobbes, si fidèle à son infortuné monarque Charles Ier, mais, quoi qu'il en soit, Clivart, jalouse avec fureur de la tendre et innocente Primrose, sans être fidèle à Jenny, ne put souffrir cet heureux mariage. Elle médite une vengeance dont je ne crois pas qu'il y ait d'exemple dans notre ville de Londres, où nos pères, cependant, ont vu tant de crimes et tant d'espèces. Elle sut que Primrose devait passer devant sa porte en revenant de la cité, où cette jeune personne était allée faire des emplaintes avec sa femme de chambre. Elle prend ce temps pour faire travailler un petit canal souterrain qui conduisait l'eau dans ses offices. Le carrosse de Primrose fut obligé, en revenant, de s'arrêter vis-à-vis cet embarras. La Clivart se présenta à elle, la prit de descendre, de se reposer, d'accepter quelques rafraîchissements en attendant que le chemin soit libre. La belle Primrose tremblait à cette proposition, mais Jenny était dans le vestibule. Un mouvement involontaire, plus fort que la réflexion, la fit descendre. Jenny courait au-devant elle et lui donnait déjà la main. Elle entre. Le mari de la Clivart était un ivrogne imbécile, odieux à sa femme autant que soumis, à charge même par ses complaisances. Il présente d'abord en balbutiant des rafraîchissements à la demoiselle qui honore sa maison. Il en boit après elle. La dame Clivart les emporte sur le champ et en fait présenter d'autres. Et pendant ce temps-là, la rue est débarrassée. Primrose remonte en carrosse et rentre chez sa mère. Au bout d'un quart d'heure, elle se plaint d'un mal de cœur et d'un étourdissement. On croit que ce petit dérangement n'est que l'effet du mouvement du carrosse. Mais le mal augmente de moment en moment, et le lendemain, elle était à la mort. Nous courûmes chez elle, M. Freind et moi. Nous trouvâmes cette charmante créature, pâle, livide, agitée de convulsions, les lèvres retirées, les yeux tantôt étincelants, et toujours fixes. Des taches noires défiguraient sa belle gorge et son beau visage. Sa mère était évanouie à côté de son lit. Le secourable chez Selden prodiguait en vain toutes les ressources de son art. Oh, je ne vous peindrai point le désespoir de Freyne, il était inexprimable. Alors je vole au logis de la Clivart, j'apprends que son mari vient de mourir, et que la femme a déserté la maison. Le cher Jenny, on ne le retrouve pas. Une servante me dit que sa maîtresse s'est jetée aux pieds de Jenny et l'a conjurée de ne pas abandonner dans son malheur, qu'elle est partie avec Jenny et Burton et qu'on ne sait où elle est allée. Écrasée de tant de coups si rapides et si multipliés, l'esprit bouleversé par des soupçons horribles que je chassais et qui revenaient, je me traîne dans la maison de la mourante. Cependant, me disais-je à moi-même, si cette abominable femme s'est jetée aux genoux de Jenny, Si elle l'a prié d'avoir pitié d'elle, il n'est donc point complice. Jenny est incapable d'un crime si lâche, si affreux, qu'il a eu nul intérêt, nul motif de commettre, qui le priverait d'une femme adorable et de sa fortune, qui le rendrait exécrable au genre humain. Faible, il se sera laissé subjuguer par une malheureuse dont il n'aura pas connu les noirceurs. Il n'a point vu, comme moi, primrose expirante. Il n'aurait pas quitté le chevet de son lit pour suivre l'empoisonneuse de sa femme. Dévoré de ses pensées, j'entre en frissonnant chez elle, que je craignais de ne plus trouver en vie. Elle respirait. Le vieux Clivart avait succombé en un moment parce que son corps était usé par les débauches. Mais la jeune primrose était soutenue par un tempérament aussi robuste que son âme était pure. Elle m'aperçut, et d'une voix tendre, elle me demanda où était Jenny. À ce mot, j'avoue qu'un torrent de larmes coula de mes yeux. Je ne pus lui répondre, je ne pus parler au père. Il fallut la laisser enfin entre les mains fidèles qui la servaient. Nous allâmes instruire Milord de ce désastre. Vous connaissez son cœur. Il est aussi tendre pour ses amis que terrible à ses ennemis. Jamais homme ne fut plus compatissant avec une physionomie plus dure. Il ne donna autant de peine pour secouer la mourante, pour découvrir l'asile de Jenny et de sa scélérate, qu'il en avait prise pour donner l'Espagne à l'archiduc. Toutes nos recherches furent inutiles. Je crus que Frayn en mourrait. Nous volions tantôt chez la Primrose, dont l'agonie était longue, tantôt à Rochester, à Douvres, à Portsmouth. On envoyait des courriers partout, on était partout, on était à l'aventure, on errait, comme les chiens de chasse qui ont perdu la voie. Et cependant, la mère infortunée de l'infortunée Primrose voyait d'heure en heure mourir sa fille. Enfin, nous apprenons qu'une femme assez jeune et assez belle, accompagnée de trois jeunes gens et de quelques valets, s'est embarquée à Newport, dans le comté de Pembroke, sur un petit vaisseau qui était à sa rade, plein de contrebandiers, et que le bâtiment est parti pour l'Amérique septentrionale. Frayne, à cette nouvelle, poussa un profond soupir. Puis, tout à coup, se recueillant et me serrant la main, « Il faut, dit-il, que j'aille en Amérique. » Je lui répondis en l'admirant et en pleurant. Bon, « je ne vous quitterai pas, mais que pourrez-vous faire ?»« Ramenez mon fils unique, dit-il, à sa patrie et à la vertu, ou m'ensevelir auprès de lui. » Nous ne pouvions douter, en effet, aux indices qu'on nous donna, que ce ne fut Jenny qui s'était embarquée avec cette horrible femme et Burton et les garnements du cortège. Le bon père, ayant pris son parti, dit adieu à Milord Peterborough, qui retourna bientôt en Catalogne, et nous allâmes fréter à Bristol un vaisseau pour la rivière de Delaware et pour la baie de Maryland. Frayne concluait que ces parages étaient au milieu des possessions anglaises. Il fallait y diriger sa navigation, soit que son fils vivait vers le sud, soit qu'il eût marché vers le septentrion. Il se munit d'argent, de lettres de change et de vivres, laissant à Londres un domestique affidé, chargé de lui donner des nouvelles par les vaisseaux qui allaient toutes les semaines dans le Maryland ou dans la Pennsylvanie. Nous partîmes. Les gens de l'équipage, en voyant la sévérité sur le visage de Frayne, croyez que nous faisions un voyage de plaisir. Mais quand il n'avait que moi pour témoin, ses soupirs m'expliquaient assez sa douleur profonde. Je m'applaudissais quelquefois en secret de l'honneur de consoler une si belle âme. Un vent d'ouest nous retint longtemps à la hauteur des Sorlingues. Nous fûmes obligés de diriger notre route vers la Nouvelle-Angleterre. Que d'informations nous fîmes sur toute la côte. Que de temps et de soins perdus. Enfin, un vent de nord-est s'étant levé, nous tournâmes vers Maryland. C'est là qu'on nous dépeignit Jenny, la Clivart et leurs compagnons. Ils avaient séjourné sur la côte pendant plus d'un mois et avaient étonné toute la colonie par des débauches et des magnificences inconnues jusqu'alors dans cette partie du globe, après quoi ils étaient disparus et personne ne savait de leurs nouvelles. Nous avançâmes dans la baie avec le dessein d'aller jusqu'à Baltimore prendre des nouvelles informations. Chapitre 7. Ce qui arriva en Amérique. Nous trouvâmes dans la route sur la droite une habitation très bien entendue. C'était une maison basse, commode et propre, entre une grange spacieuse et une vaste étable, le tout entouré d'un jardin où croissaient tous les fruits du pays. Cet enclos appartenait à un vieillard qui nous invita à descendre dans sa retraite. Il n'avait pas l'air d'un Anglais et nous jugeâmes bientôt à son accent qu'il était étranger. Nous ancrâmes, nous descendîmes. Ce bonhomme nous reçut avec cordialité et nous donna le meilleur repas qu'on puisse faire dans le Nouveau Monde. Nous lui insinuâmes discrètement notre désir de savoir à qui nous avions l'obligation d'être si bien reçus. « Je suis, dit-il, un de ceux que vous appelez sauvages. Je l'acquis sur des montagnes bleues qui bordent cette contrée que vous voyez à l'Occident. Un gros vilain serpent à sonnette m'avait mordu dans mon enfance sur une de ces montagnes. J'étais abandonné, j'allais mourir. Et le père de Milord Baltimore d'aujourd'hui me rencontra, me mit entre les mains de son médecin, et je lui dus la vie. Je lui rendis bientôt ce que je lui devais, car je lui sauvai la sienne dans un combat contre une horde voisine. Et il me donna pour récompense cette habitation où je vis heureux. » M. Fry lui demanda s'il était de la religion de Lord Baltimore. « Moi, dit-il, oh, je suis de la mienne. Pourquoi voudriez-vous que je fusse de la religion d'un autre homme ?» Cette réponse, courte et énergique, nous fit rentrer un peu en nous-mêmes. « Vous avez donc, lui dis-je, votre Dieu et votre loi ?»« Oui, nous répondit-il avec une assurance qui n'avait rien de la fierté. « Mon Dieu est là !» Et il montra le ciel. « Ma loi est là-dedans !» Et il mit la main sur son cœur. M. Fine fut saisi d'admiration et me serrant la main. « Oh, cette pure nature !» me dit-il, « en sait plus que tous les bacheliers qui ont raisonné avec nous dans Barcelone. » Il était pressé d'apprendre, s'il se pouvait, quelques nouvelles certaines de son fils Jenny. C'était un poids qui l'oppressait. Il demanda si on n'avait pas entendu parler de cette bande de jeunes gens qui avait fait tant de fracas dans les environs. « Comment ? » dit le vieillard. « Oh, si on m'en a parlé ! Je les ai vus, je les ai reçus chez moi, et ils ont été si contents de ma réception qu'ils sont partis avec une de mes filles. » Jugez quel fut le frémissement et l'effroi de mon ami à ce discours. Il ne put s'empêcher de s'écrier dans son premier mouvement. « Quoi ? Votre fille a été enlevée par mon fils ?»« Bon anglais, lui répartit le vieillard, ne te fâche point. Je suis très aise que celui qui est parti de chez moi avec ma fille soit ton fils, car il est beau, bien fait et paraît courageux. » Oh, il m'a point enlevé, ma chère Paouba, car il faut que tu saches que Paouba est son nom, parce que Paouba est le mien. S'il m'avait pris ma Paouba, ce serait un vol, et mes 5 enfants mélales, qui sont à présent à la chasse dans le voisinage, à 40 ou 50 000 d'ici, n'auraient pas souffert cet affront. C'est un grand péché de voler le bien d'autrui. Ma fille s'en est allée de son plein gré avec ses jeunes gens. Elle a voulu voir le pays. C'est une petite satisfaction qu'on ne doit pas refuser à une personne de son âge. Ces voyageurs me la rendront avant qu'il soit un mois, j'en suis sûr, car ils me l'ont promis. Ces paroles m'auraient fait rire si la douleur où je voyais mon ami plongé n'avait pas pénétré mon âme, qui en était tout occupée. Le soir, tandis que nous étions prêts à partir et à profiter du vent, arrive un des fils de Paduba, tout essoufflé, la pâleur, l'horreur et le désespoir sur le visage. « Vas-tu donc, mon fils, d'où viens-tu? Je te croyais à la chasse. Que t'est-il arrivé? Es-tu blessé par quelque bête sauvage ?»« Non, mon père, je ne suis point blessé, mais je me meurs. » « Mais d'où viens-tu encore une fois, mon cher fils ?»« De 40 000 et 600 m'arrêter, mais je suis mort. » Le père, tout tremblant, le fait reposer. On lui donne des restaurants, nous nous embrassons autour de lui, ses petits frères, ses petites sœurs, M. Freind et moi, et nos domestiques. Quand il eut repris ses sens, il se jeta au cou du bon vieillard Paruba. « Ah ! » dit-il en sanglotant, « ma sœur Paruba est prisonnière de guerre et probablement va être mangée. » Le bonhomme Paruba tomba par terre à ces paroles. Et M. Freine, qui était père aussi, sentit ses entrailles s'émouvoir. Enfin, Paruba le fils nous apprit qu'une troupe de jeunes Anglais fort étourdis avait attaqué par passe-temps des gens de la Montagne Bleue. Ils avaient, dit-il, avec eux une très belle femme et sa suivante. Et je ne sais comment ma sœur se trouvait dans cette compagnie. La belle Anglaise a été tuée et mangée. Ma sœur a été prise et sera mangée tout de même. Alors je viens ici chercher du secours contre les gens de la Montagne Bleue. Je veux les tuer et les manger à mon tour, reprendre ma chère sœur ou mourir. » Ce fut alors à M. Freind de s'évanouir, mais l'habitude de se commander à lui-même le soutint. « Dieu m'a donné un fils, me dit-il. Il reprendra le fils et le père quand le moment d'exécuter ses décrets éternels sera venu. Mon ami, je serais tenté de croire que Dieu agit quelquefois par une providence particulière, soumise à ses lois générales, puisqu'il punit en Amérique les crimes commis en Europe, et que la scélérate Scaivat est morte comme elle devait mourir. Peut-être le souverain fabricateur de tant de monde aura-t-il arrangé les choses de façon que les grands forfaits commis dans un globe soient expiés quelquefois dans ce globe même. Venons le croire, mais je le souhaite. Et je le croirais si cette idée n'était pas contre toutes les règles de la bonne métaphysique. » Après des réflexions si tristes sur de si fatales aventures, fort ordinaires en Amérique, Freind prit son parti incontinent, selon sa coutume. « J'ai un bon vaisseau, dit-il à son hôte. Il est bien approvisionné. Remontons le golfe avec la marée le plus près que nous pourrons des montagnes bleues. Mon affaire la plus pressée est à présent de sauver votre fille. Allons vers vos anciens compatriotes. Vous leur direz que je viens leur apporter le calumet de la paix et que je suis le petit-fils de Peine. Ce nom seul suffira. » Pour ce nom de Peine, si révéré dans toute l'Amérique boréale, le bon Paruba et son fils sentirent les mouvements du plus profond respect et de la plus chère espérance. Nous nous embarquons, nous mettons à la voile, nous abordons en 36 heures après de Baltimore. À peine étions-nous à la vue de cette petite place, alors presque déserte, que nous découvrîmes de loin une troupe nombreuse d'habitants des montagnes bleues qui descendaient dans la plaine, armés de casse-têtes, de haches et de ces mousquets que les Européens leur ont si sottement vendus pour avoir des plotelleries. On entendait déjà leurs hurlements effroyables. D'un autre côté s'avançaient 4 cavaliers suivis de quelques hommes de pied. Cette petite troupe nous prit pour des gens de Baltimore qui venaient les combattre. Les cavaliers courent sur nous à bride abattue, le sabre à la main. Nos compagnons se préparaient à les recevoir. M. Freine, ayant regardé fixement les cavaliers, frissonna un moment, mais reprenant tout à coup son sang-froid ordinaire, « Ne bougez pas, mes amis, nous dit-il d'une voix attendrie, laissez-moi agir seul. » Il s'avance, en effet, seul, sans armes, à pas lents, vers la troupe. Nous voyons en un moment le chef abandonner la bride de son cheval, se jeter à terre et tomber prosterné. Nous poussons un cri d'étonnement. Nous approchons. C'était Jenny lui-même qui baignait de larmes les pieds de son père, qui l'embrassait de ses mains tremblantes. Oh, ni l'un ni l'autre ne pouvaient parler. Bolton et les deux jeunes cavaliers qui l'accompagnaient descendirent de cheval. Mais Bolton, conservant son caractère, lui dit « Parbleu, mon cher Frank, je ne t'attendais pas ici. Toi et moi, nous sommes faits pour les aventures. Parbleu, je suis bien aise de te voir. » Frank, sans daigner lui répondre, se retourna vers l'armée des montagnes bleues qui s'avançait. Il marcha à elle avec le seul Paouba qui lui servait d'interprète. « Compatriotes, leur dit Paouba, voici le descendant de Penn qui vous apporte le calumet de la paix. » À ces mots, le plus ancien du peuple répondit en élevant les mains et les yeux au ciel, « Un fils de Penn, que je baisse ses pieds, ses mains et ses parties sacrées de la génération, qu'il puisse faire une longue race de Penn, que les Penn vivent à jamais, le grand Penn est notre Manitou, notre Dieu. Ce fut presque le seul des gens d'Europe qui ne nous trompa point, qui ne s'embarra point de nos terres par la force. Il acheta le pays que nous lui cédâmes, il le paya libéralement. Il entretint chez nous la concorde. Il apporta des remèdes pour le peu de maladies que notre commerce avec les gens d'Europe nous communiquait. Il nous enseigna des arts que nous ignorions. Jamais nous ne fumâmes contre lui ni contre ses enfants le calumet de la guerre. Nous n'avons avec les peines que le calumet de l'adoration. » Ayant ainsi parlé au nom de son peuple, il courut en effet baiser les pieds et les mains de M. Freind. Mais il s'abstint de parvenir au parti sacré dès qu'on lui dit que ce n'était pas l'usage en Amérique et que chaque pays a ses cérémonies. Freind fit apporter sur le champ une trentaine de jambons, autant de grands pâles et de poulardes à la daube, 200 gros flacons de vin de Pontac qu'on tira du vaisseau. Il plaça à côté de lui le commandant des montagnes bleues. Jenny et ses compagnons furent du festin. Mais Jenny aurait voulu être 100 pieds sous terre. Son père ne lui disait mot, et le silence augmentait encore sa honte. Burton, à qui tout était égal, montrait une gaieté évaporée. Freind, avant qu'on se mît à manger, dit au bon Paouba, « Il nous manque ici une personne bien chère, c'est votre fille. » Le commandant des montagnes bleues la fit venir sur le champ. On ne lui avait fait aucun outrage. Elle embrassa son père et son frère comme si elle fût revenue de la promenade. Je profitai de la liberté du repas pour demander par quelle raison les guerriers des montagnes bleues avaient tué et mangé Madame Clive Hart et n'avaient rien fait à la fille de Paouba. « C'est parce que nous sommes justes, répondit le commandant. Cette fière anglaise était de la troupe qui nous attaqua. Elle tua l'un des nôtres d'un coup de pistolet par derrière. Nous n'avons rien fait à la Paouba dès que nous avons su qu'elle était la fille d'un de nos anciens camarades et qu'elle était venue ici que pour s'amuser. Il faut rendre à chacun selon ses œuvres. » Fine fut touché de cette maxime. Mais il représenta que la coutume de manger des femmes était indigne de si braves gens et qu'avec tant de vertus, on ne devait pas être anthropophage. Le chef des montagnes nous demanda alors ce que nous faisions de nos ennemis lorsque nous les avions tués. « Ben, nous les enterrons, lui dis-je. J'entends, dit-il, vous les faites manger par les vers. Nous voulons savoir la préférence. » Nos estomacs sont une sépulture plus honorable. Ayrton prit plaisir à soutenir l'opinion des montagnes bleues. Il dit que la coutume de mettre son prochain au pot ou à la broche était la plus ancienne et la plus naturelle, puisqu'on l'avait trouvé établi dans les deux hémisphères, et qu'il était par conséquent démontré que c'était là une idée innée, qu'on avait été à la chasse aux hommes avant d'aller à la chasse aux bêtes, par la raison qu'il était bien plus aisé de tuer un homme que de tuer un loup, que si les Juifs, dans leurs livres si longtemps ignorés, ont imaginé qu'un nommé Caïn tua un nommé Abel, ce ne put être que pour le manger, et que ces Juifs eux-mêmes avouent nettement s'être nourris plusieurs fois de chair humaine, que, selon les meilleurs historiens, les Juifs dévorèrent les chairs sanglantes des Romains assassinés par eux en Égypte, en Chypre, en Asie, dans leur révolte contre les empereurs Trajan et Hadrien. Nous lui laissâmes débiter ces dures plaisanteries, dont le fond pouvait malheureusement être vrai, mais qui n'avait rien de l'atticisme grec et de l'urbanité romaine. Le bon Freund, sans lui répondre, adressa la parole aux gens du pays. Paruba l'interprétait phrase à phrase. Jamais le grave Tillotson ne parla avec tant d'énergie. Jamais l'insuidance Malridge eut des grâces si touchantes. Le grand secret est de démontrer avec éloquence. Il leur démontra donc que ces festins où l'on se nourrit de la chair de ses semblables sont des repas de vautours et non pas d'hommes, que cette exécrable coutume inspire une férocité destructive du genre humain, et que c'était la raison pour laquelle ils ne connaissaient ni les consolations de la société, ni la culture de la terre. Enfin, ils jurèrent par le grand Manitou qu'ils ne mangeraient plus ni homme ni femme. Freund, dans une seule conversation, fut leur législateur. C'était Orphée qui apprivoisait les tigres. Les jésuites ont beau s'attribuer des miracles dans leurs lettres curieuses et édifiantes, qui sont rarement l'un et l'autre, ils n'égaleront jamais notre ami Freund. Après avoir comblé de présents les seigneurs des montagnes bleues, il ramena dans son vaisseau le bonhomme Paruba vers sa demeure. Le jeune Paruba fut du voyage avec sa sœur. Les autres frères avaient poursuivi leur chasse du côté de la Caroline. Jenny, Burton et leurs camarades s'embarquèrent dans le vaisseau. Le sage Freund persistait toujours dans sa méthode de ne faire aucun reproche à son fils quand ce garnement avait fait quelque mauvaise action. Il le laissait s'examiner lui-même et dévorer son cœur, comme dit Pythagore. Cependant, il reprit trois fois la lettre qu'on lui avait apportée d'Angleterre. Et en la relisant, il regardait son fils qui baissait toujours les yeux. Et on lisait sur le visage de ce jeune homme le respect et le repentir. Pour Barryton, il était aussi gai, aussi désinvolte que s'il était revenu de la comédie. C'était un caractère à peu près dans le goût du feu comte de Rochester, extrême dans la débauche, dans la bravoure, dans ses idées, dans ses expressions, dans sa philosophie cupérienne, n'étant attaché à rien sinon aux choses extraordinaires, dont il se dégoûtait bien vite, ayant cette sorte d'esprit qui tient les vraisemblances pour des démonstrations, plus savant, plus éloquent qu'aucun jeune homme de son âge, mais n'étant jamais donné la peine de rien approfondir. Il échappa, M. Freund, en dînant avec nous dans le vaisseau, de me dire « En vérité, mon ami, j'espère que Dieu inspirera des mœurs plus honnêtes à ces jeunes gens et que l'exemple terrible de la Clivart les corrigera. » Burton, ayant entendu ces paroles, lui dit d'un ton un peu dédaigneux « Mais t'es depuis longtemps très mécontent de cette méchante Clivart. Ne me soucie pas plus d'elle que d'une poularde grasse qu'on aurait mise à la broche. Mais en bonne foi, pensez-vous qu'il existe, je ne sais où, Un être continuellement occupé à faire punir toutes les méchantes femmes et tous les hommes pervers qui peuplent et dépeuplent les quatre parties de notre petit monde. Oubliez-vous que notre détestable mari, fille de Henri VIII, fut heureuse jusqu'à sa mort. Cependant, elle avait fait périr dans les flammes plus de 800 citoyens et citoyennes, sur le seul prétexte qu'ils ne croyaient ni à la transsubstantiation ni au pape. Son père, presque aussi barbare qu'elle, et son mari, le plus profondément méchant, vécurent dans les plaisirs. Le pape Alexandre VI, plus criminel que tous, fut aussi le plus fortuné. Tous ses crimes lui réussirent et il mourut à 72 ans, puissant, riche, courtisé de tous les rois. Mais où est donc le Dieu juste et vengeur? Non, parbleu, il n'y a point de Dieu. Monsieur Frayne, d'un air austère mais tranquille, lui dit: Monsieur, vous devriez pas, ce me semble, jurer par Dieu même que ce Dieu n'existe pas. Songez que Newton et Locke n'ont prononcé jamais ce nom sacré sans un air de recueillement et d'adoration secrète qui a été remarqué de tout le monde. Pox! Repartit Burton, me soucie bien de la mine que deux hommes ont faite. Quelle mine avait donc Newton quand il commentait l'Apocalypse? Et quelle grimace faisait Locke lorsqu'il racontait la longue conversation d'un perroquet avec le prince Maurice? Alors Frayne prononça ces belles paroles d'or qui se gravèrent dans mon cœur. Oublions les rêves des grands hommes et souvenons-nous des vérités qu'ils nous ont enseignées. Cette réponse engagea une dispute réglée, plus intéressante qu'en la conversation avec le bachelier de Salamanque. Je me mis dans un coin. J'écrivis en note tout ce qui fut dit. On se rangea autour des deux combattants. Le bonhomme parle au bas, son fils et surtout sa fille. Les compagnons des débauches de Jenny écoutaient, le cou tendu, les yeux fixes, et Jenny, la tête baissée, les deux coudes sur ses genoux, les mains sur ses yeux, semblait plongée dans la plus profonde méditation. Voici, mot à mot, la dispute. Chapitre 8. Dialogue de Frayne et de Burton sur l'athéisme. Frayne. Je ne vous répéterai pas, monsieur, les arguments métaphysiques de notre célèbre Clark. Je vous exhorte seulement à les relire. Ils sont plus faits pour vous éclairer que pour vous toucher. Je ne veux vous apporter que des raisons qui peut-être parleront plus à votre cœur. Burton. Vous me ferez plaisir. Je veux qu'on m'amuse et qu'on m'intéresse. Je hais les sophismes, les disputes métaphysiques ressemblent à des ballons remplis de vent que les combattants se renvoient. Les vessies crèvent, l'air en sort, il n'en reste rien. Oui, peut-être dans les profondeurs du respectable Arien Clark, y a-t-il quelques obscurités, quelques vessies? Peut-être s'est-il trompé sur la réalité de l'infini actuel et de l'espace, etc. Peut-être en se faisant commentateur de Dieu a-t-il imité quelquefois les commentateurs d'Homère, qui lui supposent des idées auxquelles Homère ne pensa jamais. À ces mots d'infini, d'espace, d'Homère, de commentateur, le bonhomme Paruba et sa fille, et quelques Anglais même, voulurent aller prendre l'air sur le Tillac. Mais Frayne, ayant promis d'être intelligible, ils demeurèrent. Et moi, j'expliquais tout bas, à Paruba, quelques mots un peu scientifiques que des gens nés sur les montagnes bleues ne pouvaient entendre aussi commodément que des docteurs d'Oxford ou de Cambridge. L'ami Frayne continua donc ainsi. Il serait triste que, pour être sûr de l'existence de Dieu, il fût nécessaire d'être un profond métaphysicien. Il y aurait tout au plus en Angleterre qu'une centaine d'esprits bien versés ou renversés dans cette science ardue du pour et du contre, qui fussent capables de sonder cet abîme, et le reste de la terre entière croupirait dans une ignorance invincible, abandonné en proie à des passions brutales, gouverné par le seul instinct, et ne raisonnant pas sablement que sur les grossières notions de ses intérêts charnels. Non, pour voir s'il est un dieu, je ne vous demande qu'une chose, c'est d'ouvrir les yeux. Burton. Ah oui, je vous vois venir. Vous recourez à ce vieil argument tant rebattu que le soleil tourne sur son axe en 25 jours et demi en dépit de l'absurde inquisition de Rome. Et que la lumière nous arrive réfléchie de Saturne en 14 minutes malgré les suppositions absurdes de Descartes. Que chaque étoile fixe est un soleil comme le nôtre environné de planètes. Et que tous ces astres innombrables placés dans les profondeurs de l'espace obéissent aux lois mathématiques découvertes et démontrées par le grand Newton. Qu'un catéchiste annonce Dieu aux enfants et que Newton le prouve aux sages, comme le dit un philosophe Frenchman, persécuté dans son drôle de pays pour l'avoir dit. Ne vous tourmentez pas à m'étaler cet ordre constant qui règne dans toutes les parties de l'univers. Il faut bien que tout ce qui existe soit dans un ordre quelconque. Il faut bien que la matière plus rare s'élève sur la plus massive, que le plus fort en tous sens presse le plus faible, que ce qui est poussé avec plus de mouvement court plus vite, mais tout s'arrange ainsi de soi-même. Vous auriez beau, après avoir bu une panne de vin comme Mestras, me parler comme lui 960 heures de suite sans fermer la bouche, je vous en croirais pas davantage. Voudriez-vous que j'adoptasse un être éternel, infini et immuable, qui sait plus dans je ne sais quel temps, à créer de rien des choses qui changent à tout moment, et à faire des araignées pour entrer et rentrer des mouches? Voudriez-vous que je dise, avec ce bavard impertinent de Newfoundland, que Dieu nous a donné des oreilles pour avoir la foi, parce que la foi vient par oui-dire? Non, non, mais je ne croirais pas à des charlatans qui ont vendu cher leur drogue à des imbéciles. Je m'en tiens au petit livre d'un Frenchman qui dit que rien n'existe et ne peut exister sinon la nature, que la nature fait tout, que la nature est tout, qu'il est impossible et contradictoire qu'il existe quelque chose au-delà du tout. En un mot, je ne crois qu'à la nature. Fine. Et si je vous disais qu'il n'y a point de nature, et que dans nous, autour de nous et à 100 000 millions de lieues, tout cet art est sans aucune exception. Comment tout est arme? En voici bien d'une autre. Presque personne n'y prend garde. Cependant, rien n'est plus vrai. Je vous dirai toujours, servez-vous de vos yeux et vous reconnaîtrez, vous adorerez un dieu. Songez comment ces globes immenses que vous voulez rouler dans une immense carrière observent les lois d'une profonde mathématique. Il y a donc un grand mathématicien que Platon appelait l'éternel géomètre. Vous admirez ces machines d'une nouvelle invention qu'on appelle Horary, parce que Milord Horary les a mises à la porte-mode en protégeant l'ouvrier par ses libéralités. C'est une très faible copie de notre monde planétaire et de ses révolutions. La période même du changement des solstices et des équinoxes, qui nous amène de jour en jour une nouvelle étoile polaire, cette période, cette course si lente d'environ 26 000 ans, n'a pu être exécutée par des mains humaines dans nos horaires. Cette machine est très imparfaite. Il faut la faire tourner avec une manivelle. Cependant, c'est un chef-d'œuvre de l'habileté de nos artisans. Jugez donc quelle est la puissance, quel est le génie de l'éternel architecte, si l'on peut se servir de ces termes impropres, si mal assortis à l'être suprême. Je donnais une légère idée d'un horaire à Paruba. Il dit, mais s'il y a du génie dans cette copie, il faut bien qu'il y en ait de l'original. Je voudrais voir un orvery, mais le ciel est plus beau. » Tous les assistants, anglais et américains, entendant ces mots, furent également frappés de la vérité, levèrent les mains au ciel. Burton demeura tout pensif, puis il s'écria « Quoi ? Tout serait art et la nature ne serait que l'ouvrage d'un suprême artisan. Serait-il possible ?» Le sage Freyn continua ainsi « Portez à présent vos yeux sur vous-même. Examinez avec quel art étonnant et jamais assez connu, tout y est construit en dedans et en dehors par tous vos usages et tous vos désirs. Oh, je ne prétends pas faire ici une leçon d'anatomie. Vous savez assez qu'il n'y a pas un viscère qui ne soit nécessaire et qui ne soit secouru dans ses dangers par le jeu continuel des viscères voisins. Les secours dans le corps sont si artificieusement préparés de tous côtés qu'il n'y a pas une seule veine qui n'ait ses alvéoles, ses écluses pour ouvrir au sang des passages. Depuis la racine des cheveux jusqu'aux orteils des pieds, tout est art, tout est préparation, moyen et fin. Et en vérité, on ne peut que se sentir de l'indignation contre ceux qui osent nier les véritables causes finales et qui ont assez de mauvaise foi ou de fureur pour dire que la bouche n'est pas faite pour parler et pour manger, que ni les yeux ne sont merveilleusement disposés pour voir, ni les oreilles pour entendre, ni les parties de la génération pour engendrer. Mais cette audace est si folle que j'ai peine à la comprendre. Avouons que chaque animal rend témoignage au suprême fabricateur. La plus petite herbe suffit pour confondre l'intelligence humaine. Et cela est si vrai qu'il est impossible aux efforts de tous les hommes réunis de produire un brin de paille si le germe n'est pas dans la terre. Il ne faut pas dire que les germes pourrissent pour produire, car ces bêtises ne se disent plus. » L'assemblée sentit la vérité de ces preuves plus vivement que tout le reste, parce qu'elles étaient plus palpables. Burton disait entre ses dents « Faudra-t-il se soumettre à reconnaître un dieu ? Nous verrons cela, par Dieu. C'est une affaire à examiner. » Jenny rêvait toujours profondément et était touchée, et notre friend acheva sa phrase. « Non, mes amis, nous ne faisons rien. Nous ne pouvons rien faire. Il nous est donné d'arranger, d'unir, de désunir, de nombrer, de peser, de mesurer. Mais faire, quel mot ! Il n'y a que l'être nécessaire, l'être existant éternellement, par lui-même qui fasse. Voilà pourquoi les charlatans qui travaillent à la pierre philosophale sont de si grands imbéciles ou de si grands fripons. Ils se vantent de créer de l'or, ils ne pourraient pas créer de la crotte. Avouons donc, mes amis, qu'il est un être suprême, nécessaire, incompréhensible, qui nous a fait tous. » Burton. « Mais où est-il, cet être ? S'il y en a un, pourquoi se cache-t-il ? Quelqu'un l'a-t-il jamais vu ? Doit-on se cacher quand on fait du bien ? Mais avez-vous jamais vu Christophe Vienne, qui a bâti Saint-Paul de Londres ? Cependant, il est démontré que cet édifice est l'ouvrage d'un architecte très habile. » Oh, tout le monde conçoit aisément que Freyn a bâti avec beaucoup d'argent ce vaste édifice où Burgess vous endort quand il prêche. Nous savons bien pourquoi et comment nos pères ont élevé ce bâtiment, mais pourquoi et comment un dieu aurait-il créé de rien cet univers ? Vous savez l'ancienne maxime de toute l'Antiquité, rien ne peut rien créer, rien ne retourne à rien. C'est une vérité dont personne n'a jamais douté. Votre Bible même dit expressément que votre Dieu fit le ciel et la terre. Quoique le ciel, c'est-à-dire l'assemblage de tous les astres, soit beaucoup plus supérieur à la terre que cette terre ne l'est au plus petit des grains de sable. Mais votre Bible n'a jamais dit que Dieu fit le ciel et la terre avec rien du tout. Elle ne prétend point que le Seigneur ait fait la femme de rien. Il la pétrit fort singulièrement d'une côte qui arracha son mari. Le chaos existait, selon la Bible même, avant la terre. Donc la matière était aussi éternelle que votre Dieu. Il s'éleva alors un petit murmure dans l'assemblée. On disait « Burton pourrait bien avoir raison ». Mais Freine répondit « Je vous ai, je pense, prouvé qu'il existe une intelligence suprême, une puissance éternelle à qui nous devons une vie passagère. Je vous ai point promis de vous expliquer le pourquoi et le comment. Dieu m'a donné assez de raisons pour comprendre qu'il existe, mais non pas assez pour savoir au juste si la matière lui a été éternellement soumise ou s'il l'a fait naître dans le temps. Que vous importe l'éternité ou la création de la matière, pourvu que vous me reconnaissiez un Dieu, un maître de la matière et de vous? Vous me demandez où Dieu est, mais j'en sais rien, je ne dois pas le savoir. Je sais qu'il est, je sais qu'il est notre maître, qu'il fait tout, et que nous devons tout attendre de sa bonté. » De sa bonté? Mais vous vous moquez de moi. Vous m'avez dit, servez-vous de vos yeux, et moi je vous dis, mais servez-vous des vôtres. Jetez seulement un coup d'œil sur la terre entière, et jugez si votre Dieu serait bon. » Monsieur Freine sentit bien que c'était là le fort de la dispute et que Burton lui préparait un rude assaut. Il s'aperçut que les auditeurs, et surtout les Américains, avaient besoin de prendre haleine pour écouter et lui pour parler. Il se recommanda à Dieu. On alla se promener sur le tillac. On prit ensuite du thé dans le yacht et la dispute, réglée, recommença. Chapitre 9. Sur l'athéisme. Burton. Pardieu, monsieur, vous n'aurez pas si beau jeu sur l'article de la bonté que vous avez eu sur la puissance et sur l'industrie. Je vous parlerai d'abord des énormes défauts de ce globe, qui sont précisément l'opposé de cette industrie tant vantée. Ensuite, je mettrai sous vos yeux les crimes et les malheurs perpétuels des habitants, et vous jugerez de l'affectation paternelle que, selon vous, le maître a pour eux. Je commence par vous dire que les gens de Gloucestershire, mon pays, quand ils ont fait naître des chevaux dans leur haras, les élèvent dans de beaux pâturages, leur donnent ensuite une bonne écurie et de l'avoine et de la paille à foison. Mais, s'il vous plaît, quelle nourriture et quel abri avaient tous ces pauvres Américains du Nord quand nous les avons découverts après tant de siècles? Il fallait qu'ils courussent 30 et 40 000 pour avoir de quoi manger. Toute la côte boréale de notre ancien monde languit à peu près sous la même nécessité, et depuis la Laponie suédoise jusqu'aux mers septentrionales du Japon, 100 peuples traînent leur vie, aussi courte qu'insupportable, dans une disette affreuse, au milieu de leurs neiges éternelles. Les plus beaux climats sont exposés sans cesse à des fléaux destructeurs. Nous y marchons sur des précipices enflammés, recouverts de terres infertiles qui sont des pièges de mort. Il n'y a point d'autres enfers, sans doute, et ces enfers se sont ouverts 1000 fois sous nos pas. On nous parle d'un déluge universel, physiquement impossible et dont tous les gens sensés rient. Mais du moins, on nous console en nous disant qu'il n'a duré que 10 mois. Il devait éteindre ces feux qui depuis ont détruit tant de villes florissantes. Votre saint Augustin nous apprend qu'il y eut 100 villes entières d'embrasées et d'abîmées en Libye par un seul tremblement de terre. Ces volcans ont bouleversé toute la belle Italie. Et pour comble de maux, les tristes habitants de la zone glaciale ne sont pas exempts de ces gouffres souterrains. Les Islandais, toujours menacés, Voilà faim devant eux, sans pieds de glace et sans pieds de flamme à droite et à gauche sur leurs monts éclats. Car tous les grands volcans sont placés sur ces montagnes hideuses. On a beau nous dire que ces montagnes de 2000 toises de hauteur ne sont rien par rapport à la Terre qui a 3000 lieues de diamètre, que c'est un grain de la peau d'une orange et sur la rondeur de ce fruit, que ce n'est pas un pied sur 3000. Hélas, mais qui sommes-nous donc si les hautes montagnes ne font sur la Terre que la figure d'un pied sur 3000 pieds et de 4 pouces sur 9000 pieds? Nous sommes donc des animaux absolument imperceptibles. Et cependant, nous sommes écrasés par tout ce qui nous environne, quoique notre infinie petitesse, si voisine du néant, semble devoir nous mettre à l'abri de tous les accidents. Après cette innombrable quantité de villes détruites, rebâties et détruites encore, comme des fourmilières, que dirons-nous de ces mers de sable qui traversent le milieu de l'Afrique et dont les vagues brûlantes, amoncelées par les vents, ont englouti des armées entières? À quoi servent ces 20 déserts à côté de la belle Syrie? Déserts si affreux, si inhabitables, que ces animaux féroces appelés juifs se crurent dans le paradis terrestre quand ils passèrent de ces lieux d'horreur dans un coin de terre dont on pouvait cultiver quelques arpents. Ce n'est pas assez encore que l'homme, cette noble créature, ait été si mal logé, si mal vêtu, si mal nourri pendant tant de siècles. Il naît entre de l'urine et de la matière fécale pour respirer 2 jours. Et pendant ces 2 jours, composés d'espérances trompeuses et de chagrins réels, son corps, formé avec un art inutile, est en proie à tous les maux qui résultent de cet art même. Il vit entre la peste et la vérole. La source de son être est empoisonnée. Il n'y a personne qui puisse mettre dans sa mémoire la liste de toutes les maladies qui nous poursuivent. Et le médecin des urines en Suisse prétend les guérir toutes. Pendant que Burton parlait ainsi, la compagnie était tout attentive et tout émue. Le bonheur Paouba disait « Voyons comment notre docteur se tira de là. » Jenny même laissa échapper ses paroles à voix basse. « Ma foi, il a raison. Oh, j'étais bien sot de m'être laissé toucher des discours de mon père. » Monsieur Frey laissa passer cette première bordée qui frappait toutes les imaginations, puis il dit « Un jeune théologien répondrait par des sophismes à ce torrent de tristes vérités, et vous citerait saint Basile et saint Cyril, qui n'ont que faire ici. Pour moi, messieurs, j'avouerai sans détour qu'il y a beaucoup de mal physique sur la terre. Je n'en diminue pas l'existence, mais monsieur Burton l'a trop exagéré. Je m'en rapporte à vous, mon cher Paouba. Votre climat est fait pour tout, et il n'est pas si mauvais, puisque ni vous ni vos compatriotes n'avez voulu le quitter. Les Esquimaux, les Islandais, les Lapons, les Ostiaques, les Samoyèdes n'ont jamais voulu sortir du leur. Les Rangifères ou Rennes que Dieu leur a donnés pour les nourrir, les vêtir et les traîner meurent quand on les transporte dans une autre zone. Les lapons même aussi meurent dans les climats un peu méridionaux. Le climat de la Sibérie est trop chaud pour eux. Ils se trouveraient brûlés dans le parage où nous sommes. Il est clair que Dieu a fait chaque espèce d'animaux et de végétaux pour la place dans laquelle ils se perpétuent. Les nègres, cette espèce d'homme si différente de la nôtre, sont tellement nés pour leur patrie que des milliers de ces animaux noirs se sont donné la mort quand notre barbare avarice les a transportés ailleurs. Le chameau et l'autruche vivent commodément dans les sables de l'Afrique. Le taureau et ses compagnes bondissent dans les pays gras où l'herbe se renouvelle continuellement pour leur nourriture. La cannelle et le girofle ne croissent qu'aux Indes. Le froment n'est bon que dans le peu de pays où Dieu le fait croître. On a d'autres nourritures dans toute notre Amérique, depuis la Californie jusqu'au détroit de Lemaire. Nous ne pouvons cultiver la vigne dans notre fertile Angleterre, non plus qu'en Suède et en Canada. Voilà pourquoi ceux qui fondent dans quelques pays l'essence de leur rite religieux sur du pain et du vin n'ont consulté que leur climat. Ils font très bien, eux, de remercier Dieu de l'aliment et de la boisson qu'ils tiennent de sa bonté. Et vous ferez très bien, vous, Américains, de lui rendre grâce de votre maïs, de votre manioc et de votre cassave. Dieu, dans toute la terre, a proportionné les organes et les facultés des animaux, depuis l'homme jusqu'au limaçon, au lieu où il leur a donné la vie. N'accusons donc pas toujours la Providence quand nous disons souvent des actions de grâce. Venons aux fléaux, aux inondations, aux volcans, aux tremblements de terre. Si vous ne considérez que ces calamités, si vous ne ramassez qu'un assemblage affreux de tous les accidents qui ont attaqué quelques roues de la machine de cet univers, Dieu est un tyran à vos yeux. Mais si vous faites attention à ces innombrables bienfaits, Dieu est un père. Vous me citez saint Augustin l'orateur, qui dans son livre des miracles parle de 100 villes englouties à la fois en Libye. Mais songez que cet Africain, qui passa sa vie à se contredire, prodiguait dans ses écrits la figure de l'exagération. Il traitait les tremblements de terre comme la grâce efficace et la damnation éternelle de tous les petits enfants morts sans baptême. N'a-t-il pas dit dans son 37e sermon avoir vu en Éthiopie des races d'hommes pourvus d'un grand œil au milieu du front, comme les cyclopes, et des peuples entiers sans tête? Non, nous qui ne sommes pas pères de l'Église, nous ne devons aller ni au-delà, ni en deçà de la vérité. Cette vérité est que sur 100 000 habitations, on ne peut compter tout au plus une détruite chaque siècle par les feux nécessaires à la formation de ce globe. Mais le feu est tellement nécessaire à l'univers entier que sans lui, il n'y aurait sur la terre ni animaux, ni végétaux, ni minéraux. Il n'y aurait ni soleil, ni étoile dans l'espace. Ce feu, répandu sous la première écorce de la terre, obéit aux lois générales établies par Dieu même. Il est impossible qu'il en résulte quelque désastre particulier. Oh, on ne peut pas dire qu'un artisan soit un mauvais ouvrier quand une machine immense, formée par lui seul, subsiste depuis tant de siècles sans se déranger. Si un homme avait inventé une machine hydraulique qui arrosa toute une province et la rendit fertile, lui reprocheriez-vous que l'eau qu'il vous donnerait noya quelques insectes? Je vous ai prouvé que la machine du monde est l'ouvrage d'un être souverainement intelligent et puissant. Vous qui êtes intelligent, vous devez l'admirer. Vous qui êtes comblé de ses bienfaits, vous devez l'aimer. Mais les malheureux, dites-vous, condamnés à souffrir toute leur vie, accablés de maladies incurables, peuvent-ils l'admirer et l'aimer? Je vous dirai, mes amis, que ces maladies si cruelles viennent presque toutes de notre faute, ou de celle de nos pères, qui ont abusé de leur corps, et non de la faute du grand fabricateur. On ne connaissait guère de maladies que celle de la décrépitude dans toute l'Amérique septentrionale, avant que vous y eussiez apporté cette eau de mort que nous appelons eau de vie, et qui donne 1000 maux divers à quiconque en a trop bu. La contagion secrète des Caraïbes, que vous autres jeunes gens vous appelez pox, n'était qu'une indisposition légère dont nous ignorons la source, et qu'on guérissait en 2 jours, soit avec du gaillac, soit avec du bouillon de tortue. L'incontinence des Européens transplanta dans le reste du monde cette incommodité qui prit parmi nous un caractère si funeste et qui est devenu un fléau si abominable. Nous lisons que le pape Léon X, un archevêque de Mayence nommé Ehrenberg, le roi de France François Ier, en moururent. La petite vérole née dans l'Arabie heureuse n'était qu'une faible éruption, une ébullition passagère, sans danger, une simple dépuration du sang. Elle est devenue mortelle en Angleterre, comme dans tant d'autres climats. Notre avant risque la portée dans ce nouveau monde et l'a dépeuplée. Souvenons-nous que dans le poème de Milton, ce bonnet d'Adam demande à l'ange Gabriel s'il vivra longtemps. « Oui, lui répond l'ange, si tu observes la grande règle, rien de trop. Mais observez tous cette règle, mes amis. Oseriez-vous exiger que Dieu vous fît vivre sans douleur des siècles entiers pour prix de votre gourmandise, de votre ignorerie, de votre continence, de votre abandonnement à d'infâmes passions qui corrompent le sang et qui abrègent nécessairement la vie ?» J'approuvais cette réponse. Barba en fut assez content. Mais Burton ne fut pas ébranlé, et je remarquai dans les yeux de Jenny qu'il était encore bien indécis. Burton répliqua en ces termes. « Puisque vous êtes servi de lieu commun, mêlé avec quelques réflexions nouvelles, j'emploierai aussi un lieu commun auquel on n'a jamais pu répondre que par des fables et du verbiage. S'il existait un Dieu si puissant, si bon, il n'aurait pas mis le mal sur la terre, il n'aurait pas dévoué ses créatures à la douleur et au crime. S'il a pu empêcher le mal, il est impuissant, et s'il l'a pu et ne l'a pas voulu, il est barbare. Nous n'avons des annales que d'environ 8000 années, conservées chez les Brahmanes. Nous n'en avons que d'environ 5000 ans chez les Chinois. Nous connaissons rien que d'hier, mais dans cet hier, tout est horreur. On s'est égorgé d'un bout de la terre à l'autre, et on était assez imbécile pour donner le nom de grands hommes, de héros, de demi-dieux, de dieux même, à ceux qui ont fait assassiner le plus grand nombre des hommes leurs semblables. Il restait dans l'Amérique deux grandes nations civilisées, qui commençait à jouir des douceurs de la paix. Les Espagnols arrivent et en massacrent 12 millions. Ils vont à la chasse aux hommes avec des chiens. Et Ferdinand, roi de Castille, assigne une pension à ses chiens pour l'avoir si bien servi. Les héros vainqueurs du Nouveau Monde, qui massacrent tant d'innocents désarmés et nus, font servir sur leur table des gigots d'hommes et de femmes, des fesses, des avant-bras, des mollets en ragoût. Ils font rôtir sur des brasiers le roi Galtzimozin au Mexique. Ils courent au Pérou convertir le roi Malalipa. Un nommé Almagro, prêtre, fils de prêtre, condamné à être pendu en Espagne pour avoir été voleur de grand chemin, vient avec un nommé Pizarro, signifié au roi par la voix d'un autre prêtre qu'un troisième prêtre nommé Alexandre VI, souillé d'inceste, d'assassinat et d'homicide, a donné de son plein gré, proprio motu, et de sa pleine puissance, non seulement le Pérou, mais la moitié du Nouveau Monde au roi d'Espagne. Cadabalipa doit sur le champ se soumettre, sous peine d'encourir l'indignation des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Et comme son roi n'entendait pas la langue latine plus que le prêtre qui lisait la bulle, il fut déclaré sur le champ incrédule et hérétique. On fit pendre à Tabalipa, comme on avait brûlé Galtzinozin. On massacra sa nation, et tout cela pour ravir de la bouche jaune endurcie, qui n'a servi qu'à dépeupler l'Espagne, à l'appauvrir, car lui a fait négliger la véritable boue qui nourrit les hommes quand elle est cultivée. Ça, mon cher monsieur Freind, si l'être fantastique et ridicule qu'on appelle le diable avait voulu faire des hommes à son image, les aurait-il formés autrement? Cessez donc d'attribuer à un dieu un ouvrage si abominable. » Cette tirade fit revenir toute l'assemblée au sentiment de Burton. Oh, je voyais Jenny en triompher en secret. Il n'y eut pas jusqu'à la jeune Paloma qui ne fut saisie d'horreur contre le prêtre Almagro, contre le prêtre qui avait lu la bulle en latin, contre le prêtre Alexandre VI, contre tous les chrétiens qui avaient commis tant de crimes inconcevables par dévotion et pour voler de l'or. J'avoue que je tremblais pour l'ami Freind. Je désespérais de sa cause. Voici pourtant comment il répondit sans s'étonner. « Mes amis, souvenez-vous toujours qu'il existe un être suprême. Je vous l'ai prouvé, vous vous en êtes convenus, et après avoir été forcé d'avouer qu'il est, vous vous efforcez de lui chercher des imperfections, des vices, des méchancetés. Je suis bien loin de vous dire, comme certains raisonneurs, que les mots particuliers forment le bien général. Cette extravagance est trop ridicule. Je conviens avec douleur qu'il y a beaucoup de mal moral et de mal physique. Mais, puisque l'existence de Dieu est certaine, il est aussi très certain que tous ces maux ne peuvent empêcher que Dieu existe. Il ne peut être méchant, car quel intérêt aurait-il à l'être? Il y a des maux horribles, mes amis, eh bien, n'en augmentons pas le nombre. Il est impossible qu'un Dieu ne soit pas bon. Mais les hommes sont pervers, ils font un détestable usage de la liberté que ce grand être leur a donnée et dû leur donner, c'est-à-dire la puissance d'exécuter leur volonté, sans quoi ils ne seraient que de pures machines formées par un être méchant pour être brisées par lui. Tous les Espagnols éclairés conviennent qu'un petit nombre de leurs ancêtres abusa de cette liberté jusqu'à commettre des crimes qui font frémir la nature. Don Carlos, second du nom, de qui M. l'archiduc puisse être le successeur, a réparé, autant qu'il a pu, les atrocités auxquelles les Espagnols s'abandonnèrent sous Ferdinand et sous Charles Quint. Mes amis, si le crime est sur la terre, la vertu est aussi. Burton. Ah, 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 la vertu! Ah, voilà une plaisante idée, parbleu! Je voudrais bien savoir comment la vertu est faite et où on peut la trouver. Ah, ces paroles, je ne me contins pas. J'interrompis Burton à mon tour. Mais vous la trouverez chez M. Freind, lui dis-je, chez le bon Paruba, chez vous-même, quand vous aurez nettoyé votre cœur des vices qui le couvrent. Il rougit. Jenny aussi, puis Jenny baissa les yeux et parut sentir des remords. Son père le regarda avec quelque compassion et poursuivit ainsi son discours. « Oui, mes chers amis, il y eut toujours des vertus s'il y eut des crimes. Athènes vit des Socrates si elle vit des Onitus, Rome eut des Caton si elle eut des Sylla. Caligula, Néron effrayèrent la terre par leurs atrocités, mais Titus, Trajan, Antonin le Pieux, Marc Aurèle la consolèrent par leur bienfaisance. Mon ami Sherlock dira en peu de mots au bon Paruba ce qu'étaient les gens dont j'ai parlé. J'ai malheureusement mon épictète dans ma poche, et cet épictète n'était qu'un esclave, mais égal à Marc Aurèle par ses sentiments. Écoutez, et puissent tous ceux qui se mêlent d'enseigner les hommes écouter ce qu'Épictète se dit à lui-même. C'est Dieu qui m'a créé, je le porte dans moi. Oserais-je le déshonorer par des pensées infâmes, par des actions criminelles, par d'indignes désirs? Sa vie fut conforme à ses discours. Marc Aurèle, sur le trône de l'Europe et de deux autres parties de notre hémisphère, ne pensa pas autrement que l'esclave Épictète. L'un ne fut jamais humilié de sa bassesse, l'autre ne fut jamais ébloui de sa grandeur. Et quand ils écrivirent leurs pensées, ce fut pour eux-mêmes et pour leurs disciples, non pour être loués dans des journaux. Et à votre avis, Locke, Newton, Tilson, Penn, Clarke, le bonhomme qu'on appelle « the man of Rose », tant d'autres dans notre île et hors de notre île, que je pourrais vous citer, n'ont-ils pas été des modèles de vertu? Vous m'avez parlé, monsieur Burton, des guerres aussi cruelles qu'injustes dont tant de nations se sont rendues coupables. Vous avez peint les abominations des chrétiens au Mexique et au Pérou. Oh, vous pouvez y ajouter la Saint-Barthélemy de France et les massacres d'Irlande. Mais n'est-il pas des peuples entiers qui ont toujours eu l'effusion du sang en horreur? Les Brahmanes n'ont-ils pas donné de tout temps cet exemple au monde? Et sans sortir du pays où nous sommes, n'avons-nous pas auprès de nous la Pennsylvanie, où nos primitifs, qu'on défigure en vain par le nom de Quakers, ont toujours détesté la guerre? N'avons-nous pas la Caroline, où le grand Locke a dicté ses lois? Dans ces deux parties de la vertu, tous les citoyens sont égaux, toutes les consciences sont libres, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on adore un Dieu. Tous les hommes y sont frères. Vous avez vu, monsieur Burton, comme au seul nom d'un descendant de Penn, les habitants des montagnes bleues, qui pouvaient vous exterminer, ont mis bas les armes. Ils ont senti ce que c'est que la vertu, et vous vous obstinez à l'ignorer. Si la terre produit des poisons comme des aliments salutaires, voudrez-vous ne nous nourrir que de poisons? Ah, monsieur, si Dieu a tout fait, il sent son ouvrage. Il est le maître de tout, il fait tout, il dirige la main de Cromwell qui signe la mort de Charles Ier, il conduit le bras du bourreau qui lui tranche la tête. Non, non, je ne puis admettre un dieu homicide. Mais ni moi non plus. Écoutez, je vous prie, vous conviendrez avec moi que Dieu gouverne le monde par des lois générales. Selon ces lois, Cromwell, monstre de fanatisme et d'hypocrisie, résolut la mort de Charles Ier pour son intérêt, que tous les hommes aiment nécessairement et qu'ils n'entendent pas tous également. Selon les lois du mouvement établi par Dieu même, le bourreau coupa la tête de ce roi. Mais certainement, Dieu n'assassina pas Charles Ier par un acte particulier de sa volonté. Dieu ne fut ni Cromwell, ni Geoffrey, ni Ravaillac, ni Balthazar, Gérard, ni le frère prêcheur Jacques Clément. Dieu ne commet, ni n'ordonne, ni ne permet le crime. Mais il a fait l'homme et il a fait les lois du mouvement. Ces lois éternelles du mouvement sont également exécutées par la main de l'homme charitable qui secourt le pauvre et par la main du scélérat qui égorge son frère. De même que Dieu n'éteignit point son soleil et n'engloutit point l'Espagne sous la mer pour punir Cortés, Almagro et Pizarro, qui avaient inondé de sang humain la moitié d'un hémisphère, de même aussi il n'envoie point une troupe d'anges à Londres et ne fait point descendre du ciel 100 000 tonneaux de vin de Bourgogne pour faire plaisir à ses chers Anglais quand ils ont fait une bonne action. Sa providence générale serait ridicule si elle descendait dans chaque moment à chaque individu. Et cette vérité est si palpable que jamais Dieu ne punit sur le champ un criminel par un coup éclatant de sa toute-puissance. Il laisse luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Si quelques scélérats sont morts immédiatement après leur crime, ils sont morts par les lois générales qui président au monde. J'ai lu dans le gros livre d'un Frenchman nommé Mézeray que Dieu avait fait mourir notre grand Henri V de la fistule à l'anus parce qu'il avait osé s'asseoir sur le trône du roi très chrétien. Non, Il mourut parce que les lois générales, émanées de la toute-puissance, avaient tellement arrangé la matière que la fistule à l'anus devait terminer la vie de ce héros. Tout le physique d'une mauvaise action est l'effet de lois générales imprimées par la main de Dieu à la matière, et tout le mal moral de l'action criminelle est l'effet de la liberté dont l'homme abuse. Enfin, sans nous plonger dans les brouillards de la métaphysique, souvenons-nous que l'existence de Dieu est démontrée. Il n'y a plus à disputer sur son existence. Ôtez Dieu au monde. L'assassinat de Charles Ier devient-il plus légitime? Son bourreau vous en sera-t-il plus cher? Dieu existe, il suffit. S'il existe, il est juste. Soyons donc justes. Burton. Votre petit argument sur le concours de Dieu a de la finesse et de la force, quoiqu'il ne disculpe pas Dieu entièrement d'être l'auteur du mal physique et du mal moral. Je vois que la manière dont vous excusez Dieu fait quelque impression sur l'Assemblée. Mais ne pouvait-il pas faire en sorte que ces lois générales n'entraînassent pas tant de malheurs particuliers? Vous m'avez prouvé un être éternel et puissant, et, Dieu me pardonne, j'ai craint un moment que vous ne me fissiez croire en Dieu, mais j'ai de terribles objections à vous faire. Allons, génie, prenons courage, ne nous laissons point abattre. Et vous, monsieur Freine, qui parlez si bien, avez-vous lu le livre intitulé « Le bon sens » ? Oui, je l'ai lu, et je ne suis point de ceux qui condamnent tout dans leurs adversaires. Il y a dans ce livre des vérités bien exposées, mais elles sont gâtées par un grand défaut. L'auteur veut continuellement détruire le dieu de Scott d'Albert de Bonaventure, le dieu des ridicules scolastiques et des moines. Remarquez qu'il n'ose pas dire un mot contre le dieu de Socrate, de Platon, d'Épictète, de Marc Aurèle. Contre le dieu de Newton et de Locke, j'ose dire contre le mien. Mais il perd son temps à déclamer contre des superstitions absurdes et abominables dont tous les hommes et les gens sentent aujourd'hui le ridicule et l'horreur. C'est comme si on écrivait contre la nature parce que les tourbillons de Descartes l'ont défiguré. C'est comme si on disait que le bon goût n'existe pas parce que la plupart des auteurs n'ont point de goût. Celui qui a fait le livre du bon sens croit avoir attaqué Dieu. Et en cela, il manque tout à fait de bon sens. Il n'a écrit que contre certains prêtres anciens et modernes. Croit-il avoir anéanti le maître pour avoir redit ce qui a été souvent servi par des fripons ? Burton. Écoutez, nous pourrions nous rapprocher. Je pourrais respecter le maître si vous n'abandonniez les valets. J'aime la vérité. Faites-la boire et je l'embrasse.